Dans le cadre du printemps du droit local alsacien et mosellan, trois conférences sont organisées au sein de la collectivité européenne d'Alsace. Nous avons suivi la première ce 27 mars 2024. Qu'apporte le droit local à la vie des Alsaciens ? Des professionnels dont le président de l'Institut du droit local, des notaires, des avocats sont intervenus pour expliquer les spécificités de ce droit dans leur profession. Mais avant cela, l'interview de Jean-Philippe Maurer, conseiller d'Alsace, vice-président de la collectivité européenne d'Alsace, à propos du printemps du droit local et de son objectif.
C'est de mieux communiquer sur le droit local parce que tout le monde en parle et en même temps, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et donc, c'est vraiment de le mettre à l'honneur, de le mettre à la portée de tout et de tout le monde aussi. C'est d'essayer d'embrasser également dans toute sa profondeur ce droit local qui, s'il est encore parmi nous, avec nous, c'est qu'il comportait des avancées notables par rapport au droit français, quand l'Alsace est redevenue française, l'Alsace-Moselle. Et donc nous souhaitions à cette occasion, en tant que collectivité également, être animateur de ce droit local, proposer également, favoriser des rencontres aussi, des témoignages très concrets aussi, puisque la matière juridique peut être quelque peu austère, et donc avec des témoignages très concrets dans la vie de chacun, eh bien ça prouve toute son actualité et aussi la nécessité de continuer à le valoriser, à le porter et à le défendre face à un grignotage qui existe. Vous savez, dès qu'on a affaire à des textes, c'est quand même à la fois une coopération entre l'Institut de droit local, des spécialistes et nos parlementaires aussi qui se mobilisent pour le défendre puisque nous sommes en état centralisé, les choses se passent dans les administrations centrales des ministères et donc la défense techniquement se fait par les spécialistes et les élus, mais on a besoin également de s'adosser, de s'appuyer à ce socle alsacien-mosellan pour dire aussi qu'on a une légitimité, qu'il y a une volonté populaire également de défendre ce droit local. Nous agissons par mandat des Alsaciens-Mosellans.
Vous êtes inquiet, vous, justement, quand il y a des remises en cause de ce droit local au niveau national ?
L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est une sorte de grignotage dans la mesure où un droit vivant a besoin de s'adapter face à un monde qui bouge. Et donc ce refus de permettre au droit local de s'adapter risque effectivement, à un moment donné, de le rendre un peu obsolète, de ne plus être dans la performance qui était le sien aussi. Et c'est la raison pour laquelle il faut être vigilant et le risque sur des années, peut-être de marginaliser un peu plus ce droit local dans des matières où l'État central légifère. Et si pour nous, Paris, c'est pas loin, pour Paris, l'Alsace-Moselle, souvent, c'est très loin.
Retour sur l'intervention des spécialistes et avant cela, le secrétaire général de l'Institut du droit local alsacien-mosellan, Éric Sander.
Replacer le droit local dans son contexte, c'est tout d'abord une histoire très mouvementée des trois départements puisqu'on a alterné entre la France et l'Allemagne et ces successions de souveraineté ont construit ce droit local depuis 1870 jusqu'à aujourd'hui 2024. Alors pour des matières qui sont encore réglementées par du droit français d'avant 1870, mais aussi toute une série de grandes lois extrêmement modernes qui ont ici des jalons en quelque sorte, qui ont participé à la construction de ce droit local. Il y a eu les grandes lois sociales de Bismarck à partir de 1883. Il y a eu cette loi locale importante sur le cadastre de 1884, et puis on a également modernisé à cette époque-là, sur la période allemande, les professions du droit, notamment les notaires, par ailleurs les huissiers de justice, mais qui sont devenus commissaires de justice, allez savoir pourquoi, on change les mots, mais enfin bon bref. Et puis tout ce droit, en 1918, là, la France s'est posé la question de savoir, mais que faire de cette législation ? Je ne parle pas de la question linguistique, qui était aussi importante, puisque la majorité de la population était de langue allemande à ce moment-là. Et puis le choix a été fait, la logique voulant, que les trois départements redevenant français, que le droit français soit remis en vigueur. Avec, naturellement, le maintien de toute une série de matières que vous appliquez tous les jours, on ne s'en rend pas toujours compte d'ailleurs, qui ont été maintenues tantôt à titre définitif, tantôt à titre provisoire, notamment le livre foncier, on dira quelques mots, a été maintenu au départ à titre provisoire. L'idée, c'était de le généraliser sur tout le territoire français, mais ça ne s'est jamais fait et ça se fera probablement jamais. Et alors dans la loi, dans deux lois, M. Voling en a fait état, deux lois du 1er janvier 1924 qui maintiennent ce droit local, mais surtout remettent en vigueur une partie du droit français, notamment le code le plus emblématique, hein, le code civil qui traite du mariage, des successions, des contrats. Et ce droit local a traversé toute l'histoire, en ayant quand même un petit clin d'œil, puisqu'il y a un parlementaire qui a joué un rôle essentiel en la matière. En 1924, c'était Robert Schuman, député de Moselle, avocat de formation, avocat de droit allemand, ce qui n'est pas rien, parfaitement bilingue, et qui a beaucoup œuvré, notamment pour défendre le maintien du régime local des cultes. Dans un contexte de décentralisation, où on a essayé de donner des nouveaux pouvoirs aux collectivités territoriales, c'est dans la foulée qu'a été créé en 1985 l'Institut du droit local, avec un certain nombre de partenaires extrêmement importants, notamment ce qu'on appelait le Conseil général du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et la région Alsace, et toute une série de professionnels comme les avocats et les notaires.
Maître Cédric Lutz-Sorgue, avocat au barreau de Strasbourg.
Il faut rappeler que quand le droit français a été réintroduit après 18, dans beaucoup de domaines, le droit qui était appliqué en Alsace-Moselle était techniquement supérieur au droit français général. Le droit local d'Alsace-Moselle, c'est un droit national français d'application territoriale. Pour revenir maintenant à ce qui concerne un aspect plus juridique, profession juridique et judiciaire, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'apporte le droit local aux populations d'Alsace et de Moselle? C'est un certain pragmatisme. Alors en ce qui concerne, comme dit, les juridictions, l'exemple qui vient tout de suite à l'idée, ce sont devant les tribunaux judiciaires d'Alsace-Moselle, parce que vous savez que les tribunaux de grande instance n'existent plus depuis un ou deux ans, ça a été remplacé par une appellation qui est tribunal judiciaire. Il y a des chambres civiles pour des affaires, comme dit, civiles, les histoires de propriété, de divorce, etc. etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle des chambres commerciales qui sont quelque chose de tout à fait spécifique à l'Alsace-Moselle, puisque dans le reste du pays, il y a des tribunaux de commerce. Tribunaux de commerce qui sont des institutions tout à fait, comme dit, spécifiques, qui ne comportent que des magistrats consulaires, donc élus par les chambres de commerce, etc., donc des commerçants, des industriels, etc., etc. En Alsace-Moselle, la situation est toute différente, elle est beaucoup plus pragmatique, elle est beaucoup plus juridiquement stable et intéressante pour les justiciables que vous êtes, que nous sommes tous ici, etc. Les chambres commerciales, devant donc le tribunal judiciaire de Strasbourg, de Colmar, de Saverne, ça sont les trois tribunaux du Bas-Rhin, de Mulhouse et de Colmar pour le Haut-Rhin, de Metz, de Sarreguemines et de Thionville pour la Moselle. Ces chambres commerciales sont présidées par un magistrat professionnel, avec deux assesseurs qui sont des commerçants ou des industriels élus par les instances commerciales. Et si vous voulez, c'est là l'aspect pragmatique et intéressant pour les justiciables que nous sommes tous. Le magistrat professionnel, il y a une garantie de compétence juridique, parce que quand même, il sait de quoi il parle en matière juridique. J'ajoute, parce que ça a été évoqué aussi, qu'on avait à peu près le même système en ce qui concerne le Conseil de Prud'homme en 1982, alors pour des raisons politiques. Et le système de droit local, qui était pragmatique aussi, a été changé, puisqu'on avait le Conseil de Prud'homme dans les trois départements était aussi présidé par un magistrat professionnel, avec un assesseur salarié, et de l'autre côté, un conseiller prud'homal employeur désigné pareillement, démocratiquement, etc., par les organisations des employeurs. Ça marchait très bien, tout le monde était content, ça a été supprimé en 1982, et remplacé par le système de droit français général. En ce qui concerne les avocats, la dernière particularité, mais qui est inférieure, mais enfin il y a deux sortes d'avocats, au barreau de Metz et de Colmar, qui sont les deux cours d'appel des avocats postulants, c'est-à-dire représentants devant la cour d'appel, et d'autres devant, anciennement, les tribunaux de grande instance, maintenant les tribunaux judiciaires, qui, en Alsace-Moselle, on a gardé ces avocats de plein exercice, puisqu'ils ne font pas que de la représentation, ils plaident aussi, etc., quand j'ai un dossier qui va à la cour d'appel, pouvoir compter sur le concours d'un avocat postulant à la cour, qui est près des magistrats de la cour, qui connaît parfaitement la procédure d'appel, et c'est donc aussi une garantie dans un souci de pragmatisme pour les justiciables. Donc.
Maître Patricia Chevalier-Gachy, avocate, ancien bâtonnier de Colmar, illustre concrètement le droit local.
Nous touchons à beaucoup de matières et nous nous rendons compte, en confrontant nos opinions avec des confrères que j'appellerais des doves, donc d'outre-Vosges, que notre droit les intéresse par, je dirais, sa praticité et son côté avant-garde. Je m'en explique. Nous avons dans notre pratique un acte qui s'appelle un acte introductif d'instance, qui n'existe pas dans le reste de la France, mais qui nous permet d'interrompre une prescription. Alors, qu'est-ce qu'une prescription ? Vous avez un délai pour agir. Par exemple, votre voisin vous a piqué un bout de votre jardin, vous avez 30 ans pour contester le fait qu'il aille dire « Mais non, mais ça fait 30 ans que j'y suis, j'y reste, etc. » Bon, si vous ne le contestez pas dans ce délai de 30 ans, il va dire « Bah, je suis devenu propriétaire de ce bien. » C'est ce qu'on appelle un délai de prescription. Ben, dans le reste de la France, il faut assigner la partie adverse dans ce délai, c'est-à-dire aller voir un avocat, lui exposer sa situation, que celui-ci fasse un acte, qu'il transmette à un huissier, que cet huissier aille voir la partie adverse dans le délai, lui délivre l'acte pour interrompre la prescription. Ben, en Alsace-Moselle, nous avons un droit agile. Vous allez voir votre avocat qui rédige son acte introductif d'instance. Il le dépose devant la juridiction. L'interruption de la prescription a eu lieu. Vous voyez le gain de temps. On aurait pu imaginer, lors des réformes successives, que ce soit étendu. Bon, ça n'a pas été le cas, mais je peux vous dire que nos confrères du reste de la France nous envient cet acte qui est pour nous une pratique quotidienne. Nous avons également un droit très social, comme vous le savez. On vous a parlé des jours fériés, on vous a parlé certainement aussi souvent de la sécurité sociale, tout le monde le sait, des délais de carence, mais également de la faillite civile. Tous ces aspects de notre droit local démontrent qu'il y a une volonté de protéger le plus faible, une volonté de créer toutes les conditions du vivre ensemble le meilleur possible pour chaque catégorie sociale. Puisque ces lois sociales, effectivement, sont très d'avant-garde. Enfin, en Alsace-Moselle, les jours fériés sont tous chômés, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, effectivement, nous sommes dans un droit d'avant-garde. La faillite civile qui permet à tout particulier qui est noyé dans ses dettes, et Dieu sait que ça arrive pour des pépins de la vie que les gens n'ont absolument pas souhaité, ils se trouvent à un moment donné acculés par des dettes qu'ils ne peuvent plus surmonter. Et ils subissent quotidiennement des mesures d'exécution et ne peuvent plus s'en sortir. Alors, cette faillite civile a intéressé au niveau national et a été à l'origine de la création des procédures de surendettement, qui permettent aujourd'hui dans toute la France cette même conséquence pour une personne perclue de dettes, mais qui existe de longue date chez nous. Mais ce droit local, c'est aussi un droit d'exigence de compétences. D'exigence de compétences avec des professionnels. Alors, notre intervenant notaire va vous en parler, qui ont des qualifications particulières, exigées pour pouvoir pratiquer en droit local. Le cas des notaires, avec la spécificité pour les avocats, pour les huissiers, avec l'échevinage dont on vient de vous parler. C'est un droit de concorde aussi. Et on se rend bien compte que c'est un droit de concorde au travers du culte, de tout ce qu'on veut effectivement mettre en œuvre pour se vivre ensemble, avec des garanties de fiabilité dans ce droit local, dont on va parler quand on parlera du cadastre et du livre foncier. Et pour nous, dans la pratique, c'est extrêmement important. Vous connaissez certainement tous le compromis de vente en matière immobilière. En Alsace-Moselle, il a une durée de vie de 6 mois, qui n'existe pas dans le reste de la France. Alors on me dirait, mais c'est quoi l'intérêt de cette durée de vie de 6 mois? Il n'y en a aucun. Ben, c'est la sécurité juridique. Parce que, effectivement, dans le reste de la France, le compromis peut être valable ad vitam aeternam, j'exagère un peu, mais pas loin. Et il s'est trouvé que des compromis successifs ont été signés par des personnes sans aucune publicité et que des difficultés se soient posées parce que justement ce compromis, il existait quelque part, qu'on l'avait peut-être oublié et qu'un jour, le deuxième signataire d'un compromis qui avait signé est venu se voir interpellé par un précédent candidat acquéreur qui a dit « mais moi aussi j'avais un compromis » et donc conflit. Ça n'existe pas chez nous. Ce souci de fiabilité, on l'a aussi effectivement en droit des assurances. Par exemple, dans le domaine de l'incendie, vous ne pouvez rechercher la responsabilité de votre locataire qu'en établissant sa faute. Alors que dans le reste de la France, il y a une présomption de responsabilité du locataire. Vous vous rendez compte de l'importance de la chose. Vous inversez la problématique.
Maître Delphine Dissler, notaire à Elkirch, sur les spécificités qui s'appliquent avec le droit local.
Le notaire, en Alsace-Moselle, c'est avant tout un notaire français. Il faut savoir que le droit général s'applique aussi et par principe avant toute chose en Alsace, puisque l'Alsace est bien française, on le rappelle, même si certains présidents à un moment donné l'avaient un petit peu oublié. Simplement, le notaire de droit local, comme on l'appelle, le notaire alsacien mosellan, une fois qu'il a eu son parcours universitaire, ses diplômes et qui peut être notaire de droit général, il va passer un concours supplémentaire. Pourquoi ce concours ? Simplement parce qu'en Alsace-Moselle, nous ne connaissons pas le système de vénalité. Nous n'achetons pas nos offices, nous n'achetons pas nos études. Et donc, ce que l'on appellera le droit de présentation ne s'applique pas chez nous. Alors, ce droit de présentation a l'avantage, quand on a un peu d'argent dans le reste de la France, de pouvoir accéder très rapidement à un statut de notaire avec son étude, etc. Néanmoins, le système de droit local permet vraiment d'assurer une égalité de chance. C'est un système qu'on dit fondé sur le mérite, sur la compétence. Ça ne veut pas dire que je suis plus compétente qu'un autre, simplement de dire que, quelles que soient nos origines sociales, on n'a pas besoin d'argent, en fait, pour devenir notaire. Il faut qu'on ait un diplôme, ça c'est certain. À l'issue de ces diplômes, comme je vous le disais, on présente un concours de droit local. Ce concours, on peut le passer 3 fois. À un moment donné, on n'a plus le droit. Si on l'a pas eu, bon ben voilà. On pourra être notaire autrement que notre titulaire. Mais néanmoins, une fois qu'on a ce concours, on est inscrit sur une liste. Un tableau qu'on a tous, chacun dans nos études, précieusement accroché pour savoir qui pourra être le prochain qui aura la belle étude qui va se libérer à Strasbourg ou dans l'Eurométropole. Et une fois qu'une étude est vacante, ce qui veut dire qu'un notaire est parti à la retraite ou malheureusement est décédé ou simplement qu'il a décidé de changer de lieu d'exercice, tous les notaires qui avons ce concours, on va recevoir un mail qui va nous dire ben voilà, telle étude est libre, vous pouvez candidater auprès de la cour d'appel de Colmar avant telle date. Et ensuite, l'étude sera attribuée au notaire en fonction de l'ancienneté, puisqu'il y a des critères qui priment. Tout d'abord, évidemment, il faut avoir le concours de droit local, comme je vous le disais. Et une fois qu'on a ce concours, on a plusieurs critères qui vont jouer. Ça va être l'ancienneté. Cette ancienneté permet tout d'abord de faire le tri, puisqu'effectivement, quelqu'un qui est sur ce tableau depuis bien longtemps a plus de chances d'avoir une étude qui est bien placée. Ensuite, il y a d'autres critères, le mérite, et puis aussi le fait de se dire que telle ou telle association, tel ou tel notaire pourra probablement pérenniser une étude. Ensuite, le notaire au quotidien, ça reste comme partout en France, un officier public. Donc, il a une partie de mission de service public, et le service public qui est le nôtre, c'est l'authenticité. Nous recevons des actes notariés, contrairement aux actes que vous allez signer sur un morceau de papier, un compromis de vente, que vous pourriez signer, voilà, on est d'accord, toi et moi, cette maison, je te la vends 130 000 euros dans un délai de 3 semaines, le temps que tout soit en place, et puis finalement, les 3 semaines passent, et puis finalement, il se passe rien. Et donc, les mois passent, et 6 mois passent, et en Alsace, l'avantage, effectivement, c'est que quand on a un compromis sous sein privé, il va être caduque. Ce qui veut dire que vous pourrez remettre ce bien immobilier en vente, contrairement à un compromis de droit général qui, lui, risquerait de bloquer en fait la possibilité de vendre, puisqu'il n'y a rien qui a mis un terme à cet accord entre les parties. Quelles sont les spécificités, puisque je ne suis pas là pour vous vanter tous les mérites de cette belle profession que j'exerce avec passion. Les spécificités en droit local, vous connaissez tous au quotidien ce qu'on appellera l'indivision. Ça peut être un bien mobilier ou un bien immobilier. On va plus particulièrement parler des biens immobiliers. Si soudainement vous en avez marre, il y a un principe de droit général, hein, le code civil s'applique, parce que je rappelle juste que le notaire de droit local, finalement, il va juste combiner le droit général, qui s'applique à tous, plus quelques dispositions de droit local, hein, qui vont être d'ailleurs, grâce notamment à l'Institut de droit local, hein, qui a condensé toutes les dispositions du droit local, qu'on dit parfois difficilement accessibles, peu intelligibles. Alors, il est bien plus que dans d'autres régions, et tout ce condensé, hein, qui a pu être mis en place par l'Institut de droit local, permet clairement à tout un chacun de pouvoir accéder à ce droit que nous appliquons tous quotidiennement, parfois même sans le savoir. Pour ce qui est donc de cette indivision, on ne s'entend pas. Eh bien, le principe de droit général va vous dire que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. C'est donc le moment du partage. Soit le partage se fait amiablement, parce qu'on s'entend, soit on ne s'entend pas, et là, une partie, n'importe laquelle, peut saisir le tribunal. Mais effectivement, les notaires de le droit général ne connaissent pas cette procédure de partage judiciaire que nous connaissons en Alsace, puisque le notaire, en Alsace, va être désigné par le juge. Toute une procédure de partage judiciaire, donc on a ses convocations, les gens sont en notre étude. Quand ça se passe bien, chacun va se voir attribuer un lot. Ça fera l'objet d'un acte notarié. Donc, on n'est pas du tout dans une démarche judiciaire. Hein, quand on parlait du droit local qui est avant-gardiste, avant même que toutes les législations et la tendance actuelle cherche à désengorger les tribunaux, nous, dès le départ, depuis 1924, hein, on était déjà là à avoir une procédure qui se passait déjà devant le notaire, donc pas dans le tribunal, et ce qui permet de gagner du temps, hein, clairement on va le dire, et puis aussi de traiter les choses autrement que par voie procédurière ou procédurale. Donc le partage judiciaire, c'est déjà un atout. On peut tomber d'accord, tant mieux, un acte de partage. Si ça ne se passe pas bien ou qu'on ne peut pas partager, eh bien là il y a une adjudication, une vente, hein, une vente forcée, et à ce moment-là, le notaire, hein, fera brûler les trois bougies pendant au moins une minute chacune, sans qu'une enchère ait été donnée par une personne, hein, qui sera présente dans la salle. Et à ce moment-là, effectivement, on retrouve le notaire, hein, classique, hein, qui fait de la vente aux enchères.
Vous avez pu entendre des professionnels du droit local, avocats, notaires. Nous vous proposons d'entendre Jean-Pierre Sigrist, ancien directeur adjoint des impôts, en charge du cadastre.
Le cadastre, en fait, on peut le définir comme l'inventaire général et permanent des immeubles bâtis et non bâtis sur un territoire. C'est d'une part une représentation graphique, un plan, et aussi complété par des documentations littérales sur l'identification de l'immeuble et notamment l'identification du propriétaire. Le plan de cadastral est un plan qui peut avoir deux aspects. Vous avez les plans d'échelle et vous avez aussi les plans numériques, donc les plans qui représentent les distances réelles entre un point et un autre. Et c'est la grande particularité du cadastre d'Alsace-Moselle qui, d'une part, bien sûr, entre dans le cadre national d'un plan cadastral à l'échelle, mais qui est complété par ce qu'on appelle des croquis-côtés, qui complète en fait et qui corrige l'erreur d'un plan à l'échelle. Alors, juste quelques points généraux sur le cadastre. Le cadastre de la Moselle a la particularité d'avoir été conçu dans l'histoire de notre région en lien avec la création du livre foncier. Nous avons déjà évoqué le livre foncier. Et donc, le cadastre d'Alsace-Moselle donc, est né d'une loi locale. Nous avons parlé effectivement du Landesausschuss, donc, qui était une émanation de la population, donc, qui a créé une loi du 31 mars 1884, qui a donc été imaginé pour appuyer le livre foncier qui devait être créé. Alors cette loi sur le renouvellement du cadastre, qui s'appelle exactement la loi sur le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du 31 mars 1884, a été en avant-garde sur son époque. Elle a posé le principe d'un cadastre numérique, c'est-à-dire mesuré, en rendant obligatoire en Alsace-Moselle la délimitation contradictoire des limites par des propriétaires contigus, l'obligation également d'un bornage qui se faisait donc en présence des propriétaires contigus, appuyé par un procès-verbal. Et surtout l'établissement d'un plan côté, c'est-à-dire mesuré, et non pas à l'échelle, qui donne la précision, on peut dire, à 5 cm près.
Pour consulter les règles des différents professionnels en droit local, vous pouvez vous adresser à l'Institut du droit local alsacien Mosellan. Thank you.